Décryptage. Actualité. Info. Vienne. Décrypter l'actualité avec le Café de la Presse.
Bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez dans ce studio La Nouvelle République, Centre Presse, Le 7, Le Courrier Français, La Vienne Rurale, L'Actualité Nouvelle-Aquitaine ou encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire. Le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Elles arrivent, les élections européennes, dans un mois, le 9 juin prochain. Quelle est la situation aujourd'hui, que pensent les électeurs? Est-ce qu'ils vont aller voter? Qu'apporte l'Europe à la Vienne? Ce sont un petit peu les questions que nous allons nous poser dans cette émission consacrée à l'Europe et qui est ouverte par Edwy Plenaire de la Nouvelle Rue du Slip.
Parlons Europe. C'est bientôt la journée de l'Europe. Les élections européennes. L'Europe en tant que grande alliance occidentale qui va taper les méchants russes avec des troupes au sol. Les troupes au sol, ce sera les jeunes gens non encore atteints de polyarthrite, mais évidemment pas le président ni ses copains. Pour un journaliste, l'Europe est un sujet paradoxal. Autant certains marronniers orientés finissent par infuser l'opinion publique, qui répète ensuite le discours convenu sur ces malheureux propriétaires qui détiennent des logements mais qui auraient des loyers impayés par ces salauds de pauvres qu'il faut expulser, ou sur le fait qu'il faudrait embrigader la jeunesse par des uniformes, ou minutes de silence, ou les méchants palestiniens qui seraient tous antisémites. Autant sur l'Europe, cela ne marche pas. Faut-il rappeler qu'en 2005, les sondages, sondages qui par définition donnent le résultat que ceux qui les commandent souhaitent afin de créer des prophéties autoréalisatrices, donnaient le oui gagnant à 80% et c'est finalement le non qui l'a emporté à 55%. Pourquoi cette exception? Par nationalisme franco-français? Peut-être pas. Après tout, l'Europe, en soi, est un nationalisme XXL, une coalition de 27 pays dont la moitié de monarchie constitutionnelle, majoritairement chrétien et blond aux yeux bleus, face au reste de l'humanité qui ont d'autres couleurs de peau et d'autres religions. D'ailleurs, les illustrations des Journées de l'Europe dans Poitiers Mag ressemblent furieusement à une affiche du parti le plus à droite de l'arc républicain. Je dis arc républicain car on n'a plus le droit de dire extrême droite. A l'inverse, cependant, dans le cadre des élections européennes, il est désormais autorisé de diffamer une juriste en droit international qui défend un Moyen-Orient avec un État binational et laïque d'apologie du terrorisme sans preuve. S'attaquer à une juriste, faut le faire, et au vu du nombre de journalistes qui le font, si elle porte plainte, nombre de journaux vont couler. Mais pas la Nouvelle Rue du Slip, car nous ne faisons pas de diffamation. Par exemple, l'article qui disait qu'un adjoint municipal écolo possède deux Porsche reste vrai. Mais je m'égare, car c'est pas le sujet. Alors pourquoi l'Europe, ça passe pas si bien que ça dans l'opinion? Déjà, au niveau du récit, c'est un petit peu mal ficelé. Dans le même cours de géographie, le prof nous dit qu'un continent est une masse de terre significative bordée de mer, mais sauf à ce que les monts Oural soient une mer, difficile de justifier l'existence du continent Europe. Ensuite, pourquoi la Turquie n'est pas européenne alors qu'elle est coincée entre Chypre et l'Ukraine? Et quel rapport historique réel entre la Norvège, la Géorgie et l'île de Malte? Et puis les gens savent que le camarade Beethoven et son pote Friedrich von Schiller n'ont pas donné leur accord pour utiliser l'ode à la joie comme hymne d'une institution dont le but principal est de sucrer la sécurité sociale, les services publics, de faire la guerre tout en parlant d'Europe de la paix, d'affamer le tiers-monde avec des accords de commerce et surtout de casser le droit du travail. Car avec l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, pays dont le salaire minimum est inférieur au salaire chinois, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et à la Nouvelle Rue du Slip, nous savons nous aussi faire parler les morts. Schiller nous a confié être heureux d'avoir été enterré 40 ans en République démocratique allemande, et Beethoven a fait une demande de changement d'état civil pour ne pas être confondu avec Enthoven.
Donc journaliste pour La Nouvelle République et Centre Presse, bonjour. Et Arnaud Varane, rédacteur en chef du 7. Bonjour.
Bonjour Anaïs.
Merci à tous les deux d'être là pour nous parler Europe, sujet compliqué, on le disait, pour les journalistes, parce que, voilà, plus ou moins vendeur. Alors d'abord, l'info du jour, c'est qu'on a jusqu'à ce soir pour s'inscrire sur les listes.
Oui, jusqu'à ce soir, effectivement, parce que c'est important pour prendre part au scrutin, faut-il encore être inscrit sur les listes électorales. Et ça concerne notamment les ressortissants de l'Union européenne qui vivent à Poitiers. Ils sont assez nombreux et qui sont assez faiblement inscrits sur les listes électorales. On considère qu'il y a 1555 ressortissants de l'UE à Poitiers et seulement 10% qui, il y a quelques semaines encore, étaient en capacité de voter. Non pas dans leur pays, mais dans leur pays d'accueil. Et donc, il y a un réservoir de voix qui est important.
Et alors, beaucoup d'associations, enfin les associations européennes à Poitiers ont essayé de battre leur appel de la mobilisation pendant ces dernières semaines.
Oui, effectivement, les associations se sont mobilisées. On pense à Europe Direct, on pense au Pacte du Pouvoir de Vivre, on pense aux syndicats, à la ville de Poitiers, hein, qui a quand même placardé beaucoup d'affiches « Je vote » sur le en déclinaison de The Voice sur les murs de la ville. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de répondants en face parce que le scrutin passe au second, voire au troisième plan des préoccupations des gens. Nous, on avait fait un papier dans les colonnes du 7 il y a quelques semaines et en 5 mercredis après-midi de permanence à la mairie de Poitiers, au bureau 105 de la mairie de Poitiers, les bénévoles dont je parlais tout à l'heure avaient vu 5 personnes, dont 3 le même mercredi après-midi. Donc ça vous laisse augurer de la difficulté à mobiliser.
Alors je posais cette question de l'intérêt des jeunes pour l'Europe et pour cette élection. C'était en interview avec Romain Hildebauchen, donc des jeunes européens.
Les jeunes, c'est effectivement un public qu'il faut réussir à aller conquérir. C'est vraiment une petite conquête, aller voir les différents jeunes, aller leur parler. C'est un travail que je suis en train de faire actuellement en parlant sur Radio Pulsar. Et effectivement, c'est une élection qui intéresse quand même. Comme l'élection présidentielle intéresse, l'élection européenne intéresse les jeunes en général, plus que d'autres élections, je pense notamment aux départementales ou aux régionales, ce que je regrette. Mais l'Union européenne intéresse quand même. Elle est complexe, donc c'est vrai que ça prend du temps d'expliquer. C'est un vrai travail de pédagogie qu'il faut effectuer avec la jeunesse. Et donc, on essaye, nous, à notre échelle, de faire notre maximum pour l'intéresser. On verra le 9 juin ce que donnera les urnes.
Vous avez d'ailleurs co-organisé un grand débat avec des représentants de 6 listes des élections européennes.
Oui, tout à fait. C'était au salon de Blossac, je crois que c'était il y a quelques jours. J'ai plus la date en tête, mais ça avait permis de réunir plusieurs, on va dire, représentants de forces politiques de 2 listes. Il y avait, je crois qu'il y avait Europe Écologie Les Verts, il y avait la France Insoumise, il y avait le PS, il y avait, enfin, il y a beaucoup, on va dire, de listes de gauche notamment. Mais c'était ce qui avait permis justement à Poitiers, voilà, de faire vivre le débat, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau local, on disait le problème qu'on a, c'est qu'on n'a plus de députés européens qui est originaire de la Vienne. Ça a été le cas par le passé notamment. Il y a quelques années encore avec Elisabeth Morin-Chartier entre autres, mais on a des difficultés, on va dire, à faire vivre cette élection. On va dire la campagne aussi, on ne sait pas trop vraiment si comment elle a commencé, parce que là on va rentrer dans le vif du sujet, mais elle a déjà plutôt commencé parce que c'est une campagne politique, mais politique dans le sens il y a une volonté aussi, peut-être aussi, de selon certains candidats ou certains partis, de faire une récupération politique dans le sens de faire une campagne nationale, alors que c'est une campagne européenne avec des enjeux évidemment qui ne sont pas que nationaux. Il y a des enjeux européens voire internationaux, parce que On a un petit peu parlé aussi, mais il y a le côté aussi l'incertitude géopolitique aujourd'hui, hein, avec entre ce qui se passe à Gaza et avec Israël, ce qui se passe aussi en Ukraine avec la Russie, ce qui se passe aussi des luttes d'influence entre la Chine et les États-Unis entre autres. Enfin voilà, on est dans un climat un peu d'incertitude et l'Union européenne du coup est un peu au milieu du guet tout ça, et parfois c'est un peu des enjeux qui peuvent nous dépasser aussi.
Peut-être qu'il serait intéressant de revenir un peu en arrière, savoir comment, dans la Vienne, on a l'habitude de participer à ces élections européennes et quels ont été les derniers résultats.
Alors, aux élections européennes en 2019, donc c'était la liste Prenez le pouvoir du Rassemblement national avec Jordan Bardella, qui se représente cette année, qui avait terminé en tête en recueillant 22,58% des voix. C'était déjà la formation d'extrême droite qui avait fini en tête aussi en 2014 avec Marine Le Pen, soit-ci. En 2019, donc c'était Jordan Bardella devant, mais il y avait ensuite à peine moins d'un point, il y avait la liste Renaissance qui était conduite par Nathalie Loiseau. Et juste derrière, en troisième position, c'était la liste Europe Écologie Les Verts menée par Yannick Jadot, qui avait obtenu 14,24%. Ce qu'il faut voir au niveau du taux de participation, contrairement à ce qu'on peut penser, les élections européennes intéressaient un peu plus les habitants de la Vienne en 2019, puisque le taux de participation était de 53,47%. C'était 3 points de plus que la moyenne nationale. Par contre, en 2014, le chiffre n'était que de 44,50%, donc on avait quand même 9 points d'écart. La question, tout l'enjeu, de savoir si ces élections vont mobiliser là en 2024.
Oui, 50%, c'est effectivement la moyenne nationale et c'est la moyenne en Europe. La France est pile dans la moyenne de la participation européenne. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, 50%, c'est quand même pas fameux. Je vous propose de continuer en musique avec Poc Poc Jazz, ce titre départ, puisqu'ils seront en concert au Café Cantine du Commerce ce samedi à Jancé. Et là, c'était lors d'une live session au Palais des Ducs d'Aquitaine de Poitiers.
Écoutez le Café de la Presse.
En compagnie d'Edouard Daniel et Arnaud Varane, on parle Europe aujourd'hui. Alors l'Europe, concrètement sur notre territoire, en quoi ça consiste? Alors il y a ce programme que tout le monde connaît, le programme Erasmus, et qui lui fait consensus. Hein.
L'auberge espagnole, Anaïs.
L'auberge espagnole.
Oui, c'est vraiment la face très très visible et la face consensuelle de l'Europe. La capacité pour des étudiants d'aller se frotter à d'autres cultures pendant quelques semaines, voire davantage, hein, jusqu'à un an. À l'Université de Poitiers, c'est 337 étudiants qui, en 2023-2024, vont être concernés, se sont inscrits pour un séjour à l'étranger. Et c'est un chiffre qui a doublé, tout simplement, par rapport à 2022-2023. Donc, il y a un vrai engouement, il y a un vrai attrait, même si on sait que le Brexit avait un peu freiné les ardeurs d'étudiants qui voulaient partir dans le monde anglo-saxon, au Royaume-Uni. Mais il y a une vraie appétence, tout simplement, parce que les voyages forment la jeunesse.
Alors ça, c'est l'Europe qu'on aime, que tout le monde approuve. Et puis, il y a l'Europe côté agricole. Alors avec la crise qu'on a rencontrée, là, l'Europe, c'était beaucoup moins consensuel.
L'Europe était un peu, on va dire, un peu le grand méchant de l'histoire, un petit peu pour les agriculteurs, et qui a un peu généré les crises agricoles. D'ailleurs, pas qu'en France. Hein. D'ailleurs, on se souvient de manifestations qu'il y a eu en Allemagne, à Bruxelles aussi également. Ce qu'il faut savoir, le dispositif le plus connu, évidemment, c'est ce qu'on appelle la politique agricole commune, hein, celle que défendait souvent Jacques Chirac, hein, chaque salon d'agriculture à Paris. Il faut savoir que dans la Vienne, il y a 130 millions chaque année d'aides qui sont versées aux agriculteurs de la Vienne. Alors, il faut savoir que des fois, le temps qu'elles soient versées, ça demande un peu de temps. Mais ça représente environ 35 000 euros d'aides en moyenne pour une exploitation. Donc, c'est une somme pas négligeable. Mais si on voit, il y a des disparités quand même malgré tout, parce qu'on voit, par exemple, pour un céréalier de la Vienne, la part des aides peut osciller entre 10 et 20%. Mais par exemple, pour des éleveurs de bovins, on peut être, par exemple, entre 7 et 8%. Et ça dépend vraiment des élevages. Et on se rend compte aussi que les subventions sont un petit peu en baisse, parce que voilà, la France est un des pays les plus importants au niveau financement. Et du coup, ce que que regrettent un peu les agriculteurs et ce que peuvent reprocher aussi d'autres acteurs hein, également, c'est le fait qu'on ne reçoit pas assez d'argent de la part de Bruxelles. Donc voilà, mais c'est, du coup, c'est toujours un peu complexe, et les dossiers, puis ça dépend de plein de critères aussi, la PAC. Enfin voilà, c'est... Puis le problème, c'est que l'administration européenne, on reproche souvent à l'administration française de ne pas aller assez vite. L'administration européenne, des fois, il faut s'accrocher, il faut être patient.
C'est ça, elle finance une agriculture qui n'est pas forcément celle que la France souhaite mettre en avant.
Ouais, il y a des injonctions paradoxales, on l'a vu sur le glyphosate, effectivement, la France officiellement s'est battue pour tout simplement interdire à court terme le glyphosate, sauf que d'autres pays n'ont pas été d'accord. Et c'est vrai que cette règle de l'unanimité sur tous les sujets, c'est un frein, on lui reproche à l'Europe d'être trop lente, et de fait, elle l'est parce que il y a parfois des freins moteurs, certains pays hein, qui ne veulent pas, donc ça veut dire obligatoirement des consensus, et c'est compliqué des consensus sur l'agriculture parce que il y a forcément de la concurrence en fait entre pays d'un même espace, et l'Europe n'est pas les États-Unis ou la Chine, et donc il y a cette nécessité du consensus et donc ça génère forcément de la frustration sur les territoires.
Donc ça, ce sont les deux gros programmes les plus connus, mais il y en a plein d'autres pour l'innovation, la mobilité, pour l'aménagement du territoire. Il s'appelle LEADER, FEDER. Peut-être on peut rapidement dresser un petit panel de ce qui est possible grâce à ces fonds européens.
Alors les principaux fonds qui financent la Vienne, Anaïs, tu en as parlé notamment, il y a le FEDER, Fonds européen de développement régional, qui est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. C'est grâce notamment à ce fonds qu'on peut notamment dans certains pays, par exemple notamment de l'Europe de l'Est, qui a permis justement de faire des grands projets d'urbanisme, des grands projets, voilà, d'aider à moderniser un petit peu ces pays-là. Il y a le FSE+, le Fonds Social Européen+, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs. Hein, c'est un peu la continuité un peu du programme Erasmus+. Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, le FEADER, qui soutient la politique de développement rural, qui peut compléter notamment la PAC, hein, qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, où il y a encore le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Bon, dans la Vienne, on est un petit peu moins concerné, quoique pour tout ce qui est aquaculture et pêche, un petit peu quand même. Donc, c'est notamment fléché pour ça. Après, voilà, il y a le programme LEADER, il y a plein de fonds aussi comme ça, des fonds aussi qui financent la recherche, notamment le fonds Horizon Europe. Enfin, voilà, il y a une multitude de fonds, et c'est vrai que des fois, il faut être bien renseigné hein, pour savoir à quoi on a le droit.
Et alors concrètement, quels sont les projets dans la Vienne qui sont financés grâce à l'Europe ?
Alors par exemple, si on... Un peu comme ça, si on cite des exemples pêle-mêle, dans la Vienne, il y a par exemple eu la Maison des Jeunes et de la Culture Montmorillon, qui au titre du développement des territoires a reçu une enveloppe de 21 500 euros. Ça a permis des travaux d'aménagement et d'extension pour faire une épicerie sociale. Donc par exemple, ça c'est concret. Il y a également à Neuville de Poitou, une boulangerie qui a obtenu 77 000 euros pour acheter du matériel et mettre aux normes le fournil. Voilà, 77 000 euros. Bon, le boulanger, j'imagine qu'il n'aurait pas eu cette somme par lui-même. À Senillé-Saint-Sauveur, il y a une ferme, la ferme d'Anna, on peut la citer, qui élève des vaches salaires et qui a pu obtenir 22 600 euros d'un fonds européen pour son atelier de transformation d'oléagineux en huile alimentaire développée. Voilà, ça a permis de développer un peu son activité. Où il y a encore la ferme de l'air libre à Lusignan, qui est une structure d'insertion destinée aux détenus en fin de peine, qui a obtenu 20 000 euros. Donc voilà, c'est des projets concrets qui... évidemment, on ne se finance pas que avec l'Europe, mais l'Europe y contribue évidemment.
Oui, on peut ajouter, hein, pardon Anaïs, mais de manière encore plus concrète, la réfection de la passerelle de l'hôpital des Champs à Poitiers, qui va assurer une continuité entre Poitiers et Chasseneuil. Bah, y a des fonds européens. On peut aussi ajouter la végétalisation des cours d'école. On peut ajouter la mise en place de nouvelles pistes cyclables. Donc voilà, c'est très concret, sauf qu'il n'y a pas de logo Europe sur ces édifices. Et c'est ce qui manque un peu à un moment donné, c'est cette dimension d'incarnation et cette visibilité au quotidien. Les élus locaux savent mettre en avant leur réalisation. L'État l'a beaucoup fait aussi avec le programme d'investissement 2030, le fonds vert. L'Europe a peut-être ce défaut.
Il n'y a personne pour l'incarner, c'est peut-être ça. J'allais vous demander justement pourquoi ça ne prend pas alors que concrètement, il y a des fonds européens dans toute notre vie.
Ben, ça prend pas tout simplement parce que déjà il y a eu un changement des règles de liste en 2019 et qu'aujourd'hui on a des listes qui sont un peu désincarnées avec très peu de candidats locaux. Les candidats de la Vienne sur des listes pour le scrutin du 9 juin, on les compte sur les doigts d'une main. Voilà, il y a un candidat LFI à Châtellerault, il y a un candidat Europe Écologie Les Verts à Poitiers, il y a un candidat sur la liste de Raphaël Glucksmann, mais pas en position éligible, parce que PS, c'est quand même ça qui compte dans le Châtel-Rodet aussi. Et il y a deux ou trois autres candidats, mais c'est vrai qu'on ne les connaît pas. Et c'est un peu le défaut aussi des élus nationaux et des partis nationaux, c'est d'envoyer à Bruxelles, en général, des élus qui sont certes de bons élus quand ils sont à Bruxelles ou à Strasbourg, mais qui n'impriment pas, en fait, dans les esprits. Et donc, c'est de considérer aussi peut-être que le scrutin européen est un scrutin d'arrière-cour, en fait, avec moins d'enjeux nationaux. Donc, les politiques françaises sont aussi pris à leur propre jeu.
Est-ce qu'on a eu des grandes personnalités européennes dans la Vienne ?
Bah, notamment en députée européenne, on parlait d'Elisabeth Morin-Chartier, il y a aussi Bernadette Vergnaud, hein, du coup, la semaine dernière, on les a réunis, parce que c'était les dernières représentantes finalement à la rédaction. Il y a aussi Edith Cresson et Thierry Breton qui sont attachés, Thierry Breton, hein, qui a notamment été un petit peu, on va dire, à l'origine, enfin pas tout seul, mais qui a participé à la réalisation du Futuroscope, bras droit de René Monory, du coup, est commissaire européen, et il se dit d'ailleurs que c'est un des. Qu'il a des ambitions pour peut-être ne, pourquoi pas occuper le poste de Ursula von der Leyen justement, voilà, pour être commissaire général européen. Donc voilà, c'est des personnalités qui ont marqué la Vienne. Il y a aussi Jean-Pierre Ablin qui a été député européen. Il y en a peut-être d'autres et tout, mais voilà, mais ça remonte à longtemps en fait. Et c'est comme disait Arnaud, c'est le problème d'incarnation qu'on voit au niveau local, qu'on voit aussi au niveau national, parce qu'on a beaucoup de têtes de liste, faut reconnaître aussi, hein, ils ont évidemment des qualités sans doute, hein, il y a pas de souci, mais de visibilité ou de gens qui ont du charisme ou qui sont connus du grand public. Et il y a beaucoup de têtes de liste, en fait, on a l'impression, effectivement, c'est pas des élus qu'on connaît forcément dans le paysage politique ou des gens des territoires. Et du coup, il y a peut-être ce manque de lien ou d'appartenance un petit peu qui peut aussi poser problème, que ce soit au niveau local ou au niveau aussi national avec ces têtes de liste, quoi.
Et puis une vingtaine de listes quand même au niveau national pour ces élections européennes.
Oui, il y a des listes, enfin des partis qui sortent du bois uniquement pour ces élections européennes. Mmh. Donc ça ne contribue pas spécifiquement à la lisibilité du scrutin.
Et des listes qu'on n'entend pas d'ordinaire. Et puis aussi, il y a le fait aussi qu'il y a une confusion qu'on peut avoir entre le Parlement européen, entre le Conseil européen. Enfin, il y a aussi un travail, et c'est aussi aux médias de le faire, mais aux politiques aussi de le faire en premier lieu, de rappeler aussi régulièrement c'est quoi les institutions européennes, c'est quoi leur rôle, parce qu'on là, on va élire quand même 720 députés européens, donc c'est énorme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pas que la France qui les vote, c'est l'ensemble des pays européens. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des candidats issus de l'Union européenne, pas que français, qui peuvent aussi être élus en France également. C'est ça qui fait aussi la richesse de cette élection.
Merci beaucoup à tous les deux. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention dans l'actualité locale cette semaine. Et on commence avec vous, Édouard Daniel, pour La Nouvelle République et Centre Presse, avec une nouvelle grogne sociale.
Oui, c'est la prévention spécialisée de l'ATSA, c'est l'association départementale de sauvegarde de l'enfance à l'adulte de la Vienne qui, lors du vote du budget du département fin mars 2024, s'est vu amputé de 250 000 euros. 250 000 euros, on peut se dire, bon, c'est une grosse somme, mais c'est surtout l'équivalent de 5,5 éducateurs de rue en moins qui interviennent dans les quartiers au quotidien pour être, plus qu'une épaule, c'est vraiment une aide incontournable pour avoir à faire un accueil inconditionnel, de l'accompagnement auprès des jeunes et des familles dans les quartiers, des jeunes qui des fois sont marginalisés ou en voie de marginalisation, qui sont délaissés par les institutions aussi, qui des fois n'arrivent pas, on va dire, ont besoin de pas grand chose pour pouvoir s'en sortir. Et du coup, cette subvention a eu pour conséquence justement le choix subi, contraint de l'association de ne plus intervenir dans les quartiers Trois Cités et Belle-Joanne dès à présent. Et puis également un quartier à Châtellerault qui vraisemblablement serait Châteauneuf aussi également. Donc trois quartiers, ça fait à peu près 400 jeunes qui seraient, on va dire, qui ne seraient plus accompagnés par ces éducateurs de rue. Et donc du coup, il y a eu lundi une manifestation devant le département juste avant une commission permanente pour demander, de la part des éducateurs de rue, pour demander à la collectivité de revoir cette baisse en disant effectivement sans ces 250 000 euros, on ne peut pas assurer ensemble ces missions. Et ça peut coûter encore plus cher pour le département, puisqu'après ça peut entraîner des placements judiciaires qui peuvent coûter 60 000 euros le placement et plein de conséquences, et un abandon aussi des quartiers. Donc il y a tous ces enjeux-là, et l'enjeu en gros pour cette, ces éducateurs de rue et ce mouvement social, on va dire, c'est le 19 juin 2024, la décision modificative du budget où les manifestants espèrent que le département pourra modifier son budget et du coup revenir en arrière.
Et on termine avec vous, Arnaud Varane, pour le PB, puisque là, on se rassemble, on finit par une bonne nouvelle.
Oui, c'est ça, le Poitiers Basket 86 qui dispute ce soir le 33e match de sa saison régulière sur 34 et qui affronte le 8e, sachant que le PB est 7e avec 16 victoires, 16 défaites. Le 8e, Pau, La Cortèze, l'Élan Béarnais, donc qui est un club prestigieux du basket français. Et en cas de victoire, ferait un grand pas vraiment vers les playoffs. Donc ce serait vraiment une belle surprise pour son retour en Pro B. Ça se jouera à l'Arena Futuroscope, il y a 5200 personnes qui seront présentes, donc c'est à guichet fermé, et ça promet une belle fête du basket. C'est un scénario qui est quand même sympa, et seul le basket peut finalement accoucher de tels scénarios, parce que encore une fois il y a un suspense de dingue en Pro B, le maintien est assuré, donc que la fête commence.
Allez le PB.
Merci beaucoup à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis, je vous souhaite un excellent week-end.